Approchez, approchez. La suite du programme s'annonce caliente.
Voici donc un beau jingle qui fait rimer le français avec l'espagnol. C'était joli, c'était joli. Donc on se retrouve après quelques minutes musicales, toujours en studio avec Déborah, mais aussi deux intervenants donc qui vont participer avec nous pendant une petite heure sur des discussions à propos de la thématique du festival, la justice climatique. On parlait un peu de cette justice climatique, de ses enjeux. Le nom vraiment de la thématique, c'est de Rio à Doha en passant par Esperanza. Donc on va un peu présenter cette campagne en particulier, le CNCD, la présentation, mais également le département environnement du festival. Quelles sont les implications de ces deux grands noms, environnement, climat, justice, et puis on va un peu voir.
Digresser, discuter.
On va digresser, digresser et discuter. Donc on accueille en studio, comme on le disait tout à l'heure, Caroline Devriès et Jean-Gérald Pao. Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Ça va bien, merci.
Bien.
Le festival vient de commencer, les choses sont en train de se mettre en place, sont déjà mises en place, ça commence.
En effet, oui, oui. En plus, on a un temps magnifique, donc on espère une édition assez positive et pleine de rebondissements.
Voilà, donc je propose peut-être dans un premier temps une présentation, tout hasard, Caroline était en face de moi. Présente un peu ton rôle, si tu veux bien, par rapport à la thématique, par rapport au CNCD et ton implication dans le Festival Esperanza.
D'accord, donc moi je suis attachée de presse au CNCD 11-11-11, donc je suis là pour représenter le CNCD puisqu'il coordonne cette année le village de la justice climatique. En deux mots, le CNCD 11-11-11 est une coupole qui rassemble 90 ONG, associations d'éducation permanente et syndicats, tous engagés dans la coopération internationale en Belgique francophone et germanophone. Nous avons donc trois missions, qui est sensibiliser le public justement aux enjeux de la coopération internationale. Donc c'est ce qu'on verra pendant le festival Esperanza, la sensibilisation des festivaliers sur la thématique et également à la campagne de la justice climatique. Une deuxième mission qui est le financement des projets de développement dans le Sud. Et donc, ces financements se font grâce à l'opération 11-11-11 que beaucoup de personnes déjà connaissent et qui a lieu chaque année au mois de novembre et qui aura lieu cette année du 8 au 18 novembre. Et une troisième mission qui est d'interpeller nos décideurs politiques pour un monde plus juste. C'est pour ça que cette campagne justice climatique s'inscrit vraiment dans un agenda politique très, très chargé en sommet international. Que ça soit Rio au mois de juin qui vient de se passer et Doha, la prochaine date pour nous au mois de décembre.
D'accord, merci. Jean-Gérald, bonjour. Quel est ton rôle ici dans ce grand mot environnement qu'est-ce qu'on met en pratique qu'est-ce qu'on fait quand on est à ta place?
On fait pas mal de choses, on fait surtout bosser pas mal de bénévoles. Donc en gros, on prévient la diminution des déchets en ne fournissant aucun déchet aux festivaliers. Donc on a des gobelets réutilisables dans les bars. Tout ce qui est vendu dans le coin des restos, c'est du biodégradable. Donc on trie l'organique. On trie un maximum de déchets pour qu'ils soient valorisés. Donc on a de moins en moins de tout venant. Et pour ça, on a beaucoup, beaucoup de petites mains. Donc, c'est divisé en zones. Donc, on a 100 bénévoles sur le grand camping, 20 en haut. Il y a 60 à 80 bénévoles sur le site pour ramasser tous les déchets et s'assurer que les poubelles soient changées le plus vite possible. Après, on a encore une bonne équipe. Je pense qu'ils sont 40 pour le lavage des gobelets. Et le tri, parce que on essaye que les gens trient de mieux en mieux leurs déchets, mais derrière, on revide tous les sacs poubelles pour à nouveau les trier et s'assurer que les conteneurs soient bien remplis. Voilà. Et alors, on a aussi le volet sensibilisation. Donc ça, c'est via les BIBS, qui accueillent dès le jeudi soir les festivaliers à la gare.
Excuse-moi, tu as dit les BIBS.
Les BIBS.
C'est...
IBZ, c'est les bonhommes habillés en mauve avec leur vélo mauve, leur caravane mauve.
D'accord, c'est pour nos auditeurs. Hein.
Mais voilà, donc c'est eux. Et ils ont un slogan, c'est Waouh. Donc,
voilà, c'est ceux qui mettent les petits cendriers.
Ils sont reconnaissables, voilà, c'est eux. Et qui aident les festivaliers à amener leur sac de couchage, leur tente au camping le premier jour.
Oh, excellent, ça, je savais
pas. Voilà. Ah oui, si, ils attendent avec les charrettes qu'ils utilisent pendant le festival pour balader les poubelles. Ils accompagnent les festivaliers jusqu'au camping le premier jour. Donc c'est vraiment de la sensibilisation et de l'adhésion. Donc, et chaque année, c'est un travail. L'idée, c'est de les inciter à amener de moins en moins de déchets ménagers, donc des canettes, des PMC, etc. En leur disant, ben voilà, il y a à boire ici, vous pouvez acheter dans le village, il y a de la nourriture un peu partout. Et aussi, les inciter à le trier au mieux, quoi.
Le triage, c'est quand même... Enfin, le triage, non, c'est le tri.
Le tri.
Donc, le tri des déchets, c'est important. En même temps, le côté, cette entre guillemets, cette stratégie d'environnement au niveau d'Esperanza, c'est pas neuf. C'est vrai que ça... Par exemple, les gobelets réutilisables, on a mis un peu de temps avant de les découvrir sur Esperanza, mais là, vraiment, il y a encore aujourd'hui toute une réflexion pour, justement, continuer à diminuer les déchets, continuer aussi à diminuer l'empreinte écologique du festival.
Oui, c'est pas neuf en effet, tu fais bien de le dire. Enfin, moi, ma tâche est assez aisée cette année parce que Jean-Michel avant moi a fait un boulot incroyable avec toutes ses équipes, tout ce qu'il a mis en place. Donc cette année, moi, mon but c'est de faire aussi bien que lui cette année. Et alors, la petite nouveauté, c'est qu'on se rend compte chaque année que, et encore, on n'est pas un des pires festivals à ce niveau-là, mais il y a beaucoup de festivaliers qui viennent avec une tente et qui la laissent... parce qu'il y a un trou dedans, et voilà, elle a coûté 20 euros, on s'en fout. Et ça, j'ai demandé à mes équipes de garder un maximum de choses qui peuvent être utilisées en tout ou en partie, donc une partie de tente, de tonnelle, une assiette, un couteau, une fourchette, etc. Cette année, on va faire un inventaire de ce qu'on a pu récupérer. À mon avis, on va quand même devoir les jeter, mais réfléchir pour l'année prochaine à ce qu'on pourrait en faire, quoi.
La déco ?
La déco, voilà, par
exemple.
À mon avis,
l'équipe déco pourrait bien s'amuser avec tout ça.
Oui, sûrement. Mais... Il y a plein de choses à récupérer, mais voilà, il faut après savoir qu'en faire et comment les stocker. Donc,
Ou encore, déjà mettre peut-être après le festival sur le site les kilos de matériel qui a été abandonné. Voilà, vous êtes parti, vous nous avez laissé autant de kilos de déchets ou de restes. Donc, essayer de le diminuer au maximum pour... l'année prochaine.
Voilà.
C'est fou quand même pour un festival engagé que les festivaliers ne soient pas toujours autant engagés que le festival.
Oui, comme je disais, on en a moins que dans beaucoup d'endroits. Enfin, après, il y a des festivals où c'est des campings énormes. Et, enfin, c'est un peu comme mettre un village de 15 ou 20 000 personnes sans rien, sans normes. C'est pas gérable, quoi. Et ici, franchement, ça va. Il n'y a pas tant d'encombrants et de déchets comme ça, mais... Je vous dis, c'est l'année zéro à ce niveau-là. On va voir
surprise.
Ce qu'il y a. Je vous le dirai l'année prochaine.
Et bien voilà, donc environnement, donc une question, une réflexion constante sur Esperanza, avec ce côté aussi de justice climatique qui rentre évidemment bel et bien en parallèle. Ce sont donc deux réflexions qui sont menées conjointement par Esperanza et le CNCD. Avant peut-être de se dire, mais qu'est-ce que c'est la justice climatique ? Un petit morceau de musique peut-être ?
Oui, je propose un peu de musique.
Radio Esperanza, d'autres musiques sont possibles.
Et c'était quoi d'ailleurs cette musique, autre musique possible, David, qui est à la technique et que nous remercions ?
C'était Molotov.
Et bien voilà, Molotov, qui seront évidemment en concert sur Esperanza. Eux, on les retrouvera tout bientôt d'ailleurs, puisque le festival dure 3 jours, c'est jusque dimanche. Et bien justement, ils joueront dimanche à 18h15 sur la scène côté court. Eh bien, on parle donc de justice climatique dans son premier débat de Radio Esperanza. Et cette justice climatique qui est donc une préoccupation, ça y est, je l'ai dit, du CNCD d'Esperanza. Alors tout d'abord, comment ça s'est passé cette collaboration entre le CNCD 1111 et Esperanza ?
C'est vrai que c'est une collaboration de longue date, puisque le CNCD 1111 cherchait un partenaire culturel et en cohérence avec ses valeurs. Et voilà, au fil d'une rencontre, Le secrétaire général et le directeur d'Esperanza ont vite vu que voilà, ils partageaient donc les mêmes préoccupations. Donc la première participation du CNCD 1111 à Esperanza remonte à 2003 ou 2004, donc ça fait pratiquement une petite dizaine d'années. Et c'est vrai que le festival est un festival engagé avec des artistes engagés. Et c'est vraiment cet aspect-là qui nous intéresse avec la mise en avant de culture du monde.
Et c'était sur l'abolition de
la dette du tiers-monde,
si je me souviens bien.
Tu faisais partie de la...
J'étais déjà là.
D'accord. Donc voilà, donc plusieurs liens qui nous lient, plusieurs préoccupations donc communes, et nous sommes amenés donc cette année à répéter cette collaboration et à lancer notre deuxième année de campagne 11-11-11 sur la justice climatique ce dimanche. Donc un grand honneur encore d'être présent ici.
Vous êtes déjà dans la deuxième année de la justice climatique au niveau
c'est
du
ça.
CNCD.
C'est
donc
ça.
En fait, les campagnes du CNCD 11-11-11
durent
chaque fois sur deux ans, parce que j'imagine qu'un an, c'est un peu court.
C'est ça, c'est un peu court et on a toujours un message politique qui prend bien sûr du temps aussi à se mettre en place, à se concrétiser. Donc cette année, on rentre dans la deuxième phase de l'année de campagne 11-11-11. Qui part sur un même constat, puisqu'on reste dans la justice climatique, et le constat est que les principales victimes de ces changements sont les populations du Sud. Les populations du Sud qui sont les plus pauvres, les plus fragilisées, puisqu'elles sont face à des aléas climatiques qui sont très conséquents, que ce soit des inondations, des sécheresses, des incendies, des disparitions côtières, la fonte des glaces. Donc malheureusement, ce sont eux les principales victimes des émissions de gaz à effet de serre. Et on sait que ce ne sont pas les pays du Sud qui sont responsables, mais bien nous, le Nord, les pays industrialisés. Et c'est vraiment une responsabilité historique que nous avons et auquel donc, nous devons bien sûr faire face.
En même temps, on ne parle pas alors de justice climatique, mais d'injustice climatique.
En effet.
Quelque part.
Alors justement, quels sont les projets qu'on met en place comme ça pour intervenir en amont, j'ai envie de dire ici, puisque les responsables, entre guillemets, c'est nous, et les victimes sont dans le Sud. On travaille, je suppose, sur un axe Nord-Sud, non? Je pense qu'il y a autant un travail qu'on peut faire d'ici, local de notre côté, mais local là-bas aussi. Alors, comment est-ce que ça se prépare? Comment est-ce qu'on aborde ces sujets-là? Comment est-ce qu'on travaille, en fait?
C'est vrai que le CNCD 1111 est donc une coupole qui rassemble énormément d'ONG, d'associations, donc plus de 90. Et on a la chance d'avoir justement des partenaires également au Sud, des partenaires de nos membres du CNCD 1111, qui nous rendent compte justement de ces problématiques. Donc c'est vrai qu'on a vraiment une expérience sur le terrain pour nous rendre compte de ces problèmes. Et alors au Nord, ce qui fait partie d'une de nos missions, c'est vraiment la sensibilisation du public belge à ces enjeux de la coopération internationale.
Alors le constat de départ, finalement, c'est qu'on se rend compte que maintenant, chaque année, la quantité de ressources que nous utilisons est de plus en plus importante. Je lis. Hein. En 2010, nous consommions l'équivalent d'une planète et demie. Alors là, moi, je comprends pas, puisque ça fait des années, des années, des années, des années qu'on tire la sonnette d'alarme, qu'on nous dit attention, réchauffement climatique, attention, gaz à effet de serre. Enfin,
Mais on continue,
oui, mais c'est quand même aberrant qu'on continue dans une optique de croissance de déchets, de consommation de planète, alors qu'on a à côté de ça le GIEC, par exemple, qui vraiment, sur base d'études, tire, c'est même plus une sonnette d'alarme à ce niveau-là, c'est on tire le truc de la sortie de secours, quoi.
Bah, c'est vrai que cette campagne est d'autant plus importante puisqu'elle met aussi en valeur le pillage également des ressources naturelles, le pillage des pays du Nord au Sud. Les pays du Sud sont très très riches de matières, de ressources naturelles, et nos grandes entreprises vont là-bas pour justement exploiter à fond leurs matières premières, pour déforester. Donc c'est vrai que c'est un constat assez important. Il y a l'idée vraiment de pillage du Nord, et pour justement essayer de calmer un petit peu cette ardeur, il y a donc des grands sommets également qui s'organisent. Les gouvernements essaient justement de remédier à tout ça, et pour faire en sorte qu'il y ait vraiment des mesures réelles et concrètes qui en ressortent.
Alors justement, par rapport à ces grands sommets internationaux, on voit bien que depuis Copenhague, que ce soit les conférences pour le climat à Copenhague, que ce soit les G20, G8, etc., on voit bien qu'il n'en ressort plus rien en fait, que toutes les grandes puissances sont incapables de se mettre d'accord à ces grands sommets internationaux, puisqu'à chaque fois, il en sort à peu près rien du tout. Est-ce que c'est un constat que vous partagez et quelles sont les pistes de réflexion que vous avez à ça, même pour aller jusqu'à proposer des réformes d'institutions internationales, vu qu'apparemment elles ne fonctionnent plus. Alors ça, c'est mon avis. Hein.
Bon, je pense qu'il y a quand même des, même si elles sont assez minimes, mais quand même des, je veux dire des lueurs d'espoir quand même à tout cela. On a vu avec Rio, voilà, ça n'a pas abouti avec des mesures concrètes, mais il y a quand même un réel engagement en fait de certains pays. Le gros problème, c'est vraiment, je pense, la position des pays émergents également. La position de certains pays émergents avec les pays industrialisés qui ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est un travail malheureusement voilà de longue haleine sur la durée. Et il faut être patient. Il faut être patient, mais il faut pas voilà, il faut pas baisser les bras et il faut qu'on continue justement à y croire. Et je pense que la Belgique pour cela. Et plutôt fait partie justement des pays en tête de file pour faire bouger tout cela et lutter contre le réchauffement climatique, puisque le gouvernement fédéral ainsi que la région wallonne et bruxelloise se sont engagés à baisser de 30% leur émission de gaz à effet de serre d'ici 2020. Donc je trouve que
déjà promis avant. C'est pas une nouvelle promesse.
Les 30% en tout cas, c'est nouveau et c'est assez conséquent. Donc
c'est Kyoto.
Ça reste une promesse.
Oui, voilà. À Kyoto, ils avaient promis aussi une diminution des gaz à effet de serre au niveau de la Belgique de je ne sais plus combien de pourcents. Ils n'y sont pas arrivés.
On a augmenté.
Et donc maintenant, enfin voilà. Non, c'est vrai. Les paroles sont belles. Hein, l'engagement est beau, mais en même temps, voilà. Enfin, ce qu'on peut remarquer aussi dans cette thématique d'injustice climatique, c'est que finalement, c'est toujours les pays du Sud qui pâtissent, mais de tout à cause du Nord, que ce soit au niveau de la souveraineté alimentaire, de la dette du tiers monde. On en parlait tout à l'heure, de justice climatique. Bon, ici aussi, on parlait de pays émergents. C'est vrai que les pays en voie de développement n'empêchent qu'ils ont quoi comme modèle de fonctionnement, donc de production, de consommation ? C'est le Nord. C'est le Nord. Et ils aspirent à quoi ? À arriver à ce même principe. Donc il y a aussi une part de... C'est pas évident.
En effet, il faut également qu'on monte le modèle. Enfin, faut
changer le modèle.
Il faut changer le modèle. Et je pense qu'il y a vraiment il y a des alternatives possibles. Et il faut clairement modifier notre mode de consommation et de production. Ça c'est certain que ça sera la clé de. Ça peut être vraiment une clé importante à.
Voilà. Oui, non, mais je voulais sauter sur l'occasion donc pour parler justement des énergies alternatives, un peu vous demander votre avis par rapport justement au fait qu'il y a pas mal de possibilités, non, en dehors du pétrole par exemple, de pouvoir utiliser des énergies alternatives. C'est une question qui n'en est pas une et qui en même temps donne un peu mon opinion. Est-ce que vous n'avez pas peur quelque part, ou est-ce qu'on n'aurait pas peur quelque part de proposer des énergies alternatives ? Mais qu'au final, ne servent quand même qu'à continuer à consommer comme on l'a toujours fait. Ce serait finalement une fausse solution et finalement un modèle alternatif de consommation, ce serait tout simplement arrêter de consommer.
On ne dit pas promouvoir un autre modèle de consommation pour consommer à la même vitesse. Mm-hmm. C'est revoir également notre modèle de consommation. Donc je pense qu'il est important de penser à d'autres alternatives au niveau de l'énergie, mais il faut avoir en tête également qu'il faut réduire sa consommation d'énergie.
Que ce soit en énergie telle qu'on la connaît ou une énergie alternative. Jean-Gérald, une opinion sur la question ?
Oui, tout à fait. Enfin, oui, c'est pas vraiment ce qui se passe, c'est clair. On produit des télévisions qui consomment moins, mais on en a dans chaque pièce. On a des voitures hybrides, mais on fait trois fois plus de kilomètres. Ça sert à rien, ça reste de la consommation. Et enfin voilà, c'est comme on pourrait très bien dire qu'on fait un festival écologique, vert, tout ce qu'on veut, mais c'est n'importe quoi. Si on veut faire un festival vert écologique, on n'en fait pas. Voilà.
Il y en a un qui existe, un vrai.
Un vrai ?
Oui, et qui s'appelle L'amour en vert.
Et c'est où ?
C'est, ils bougent, mais là, c'était
oui, je vois ce que c'est, oui.
Près de Cours-Saint-Étienne, si. Je crois.
Ils boivent de la bière.
Oui, mais dans des...
Bah oui, mais
ils la refroidissent dans l'eau qui coule à côté,
il
la remonte.
Il faut la déplacer, la bière, il faut la produire, enfin voilà, tout ce qui est consommation.
Oui, et quand on prend comme ça deux extrêmes, un mode de consommation abusé, et alors en contrepartie un mode de consommation beaucoup plus...
Réfléchi.
Beaucoup plus réfléchi. Un juste milieu entre les deux pour éviter... est-ce que parfois il n'y aurait pas un côté parfois un peu monacal comme ça, d'en revenir à des valeurs, une manière de consommer où aujourd'hui il faut quand même se faire plaisir quelque part, je ne sais pas, hein, je pose la question.
Bah, y a plein de petites choses à appliquer au quotidien. Par exemple, être membre d'un collectif, d'un potager collectif, voyager un peu moins loin ou utiliser son vélo, le train. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent
tout ce qui
s'appliquer.
Est local, c'est clair.
Voilà, consommer localement, de saison également.
On parlait de Doha, Copenhague, moi personnellement je ne m'y intéresse pas beaucoup parce que je n'en attends pas beaucoup, par contre j'attends beaucoup de ce qui se passe autour de moi, et Esperanza c'est un chouette lieu, un espèce de laboratoire pour moi au niveau environnement, et clairement on explore des pistes, et puis ça fait tache d'huile ça... il y a d'autres festivals, je ne vais pas dire qui ont copié, mais c'est un peu ça. Et c'est bien, enfin, le tri, ça s'organise de mieux en mieux à gauche à droite.
Mais justement, pardon.
Tu veux dire juste que la politique, en fait, ça s'arrête pas quand on met un bulletin dans l'urne, mais ça commence en fait en bas de chez soi.
Oui, bien avant ça, oui. Aller voter, c'est bien d'aller voter, je ne décourage personne d'y aller, mais franchement, il ne faut pas se limiter à ça, quoi. C'est bien beau de dire les politiciens ne font rien, mais. Il ne faut rien en attendre, c'est tout. Ouais. Quand ils font quelque chose, tant mieux.
Agissons.
Voilà.
Et justement, donc, Esperanza met en place le tri et tout ça, mais au niveau, on parlait d'énergie, est-ce qu'il y a des choses mises en place au niveau d'Esperanza pour limiter la consommation d'énergie, par exemple ?
Alors ça, j'avoue que je ne sais pas, mais il me semble que sur les scènes, on est passé en basse énergie, justement, pour le matériel, mais ça, il faudrait demander à notre régisseur en chef, Pierre Alain, et on saura beaucoup plus que moi.
Tu ne gères pas tout l'environnement.
Non, je ne gère pas tout ce qui est technique. Mais je sais que les groupes électrogènes, parce que malheureusement, pour faire fonctionner un festival, il faut beaucoup d'énergie. Ce qui est disponible dans l'abbaye, on ferait griller les plombs assez rapidement.
Cette bonne vieille abbaye.
Et du coup, on a des groupes électrogènes qui consomment du mazout. Pour l'instant, pas encore autre chose. Maintenant, c'est une boîte qui est très pro, et ils ont des groupes qui fonctionnent très très bien, et ils sont toujours à la pointe. Donc voilà, on travaille en avance avec eux, quoi, avec les fournisseurs, et ça c'est bien aussi. Les toilettes sèches par exemple, à la base c'était pas des toilettes sèches, mais...
Il n'y avait plus que des toilettes sèches à Esperanza ?
Il n'y a plus que des toilettes sèches.
Des toilettes sèches et gratuites.
Sauf dans les bâtiments forcément.
Oui.
On ne va pas les changer. Mais,
on ne va pas essayer de mettre de la...
Mais
de
ça
la
par exemple, c'est un fournisseur historique d'Esperanza, mais qui est passé aux toilettes sèches.
Au niveau des bars aussi, il me semble qu'il y a eu un changement au niveau des fournisseurs, non ?
Au niveau des bars, on est passé chez Silly depuis quelques années maintenant.
C'est mieux qu'un bev.
Ah oui ? Pas photo. Ça c'est une brasserie, c'est une petite brasserie belge qui fait de la Silly bio d'ailleurs. Ils l'ont inauguré ici l'année passée, il y a 2 ans.
On va vite finir ce débat histoire que j'aille voir cette Silvio. Non, donc voilà, il y a toujours donc des réflexions. C'est vrai que même si on défend la campagne du CNCN et qu'on l'accompagne d'ailleurs au niveau de la justice climatique, c'est vrai qu'on ne peut pas être, comme tu disais, un festival totalement vert et totalement écolo, sinon, enfin écologique, hein, on entend bien, pas vert, si vert, mais...
On déplace des festivaliers, on déplace des artistes, on produit des déchets, on consomme de l'énergie, donc voilà. Maintenant, on peut viser de s'améliorer chaque année, ça on peut le faire.
Voilà, bien, sur ces bonnes paroles, on passe à un nouveau morceau de musique. David.
Radio Esperanza sur le web, radio.esperanza.be.
Et toujours sur les ondes de Radio Esperanza 106.2 sur la bande FM autour de Floref et sur internet www.radio.esperanza.be sur toutes nos amis radio partenaires en Belgique et en France. C'est quand même la première année où on est diffusé sur 10 radios en France et en Belgique, plus sur le web. Donc finalement, on écoute Radio Esperanza dans le monde entier. C'est pas beau ça?
C'est superbe.
Et donc on parlait de justice climatique, c'est bien ça d'en parler dans le monde entier, de la justice climatique. On partait également du constat que c'était finalement de l'injustice climatique et on est là pour en parler avec Gigé Pao, ça y est j'ai réussi, et Caroline De Vries du CNCD 1111 et toi Jean-Gérald, donc tu es responsable environnement au niveau du Festival Esperanza. Cette justice climatique qui part d'un constat, c'est que finalement en 2010 nous avons consommé l'équivalent d'une planète et demie. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à consommer en une année une planète et demie?
C'est parce qu'en fait notre mode de consommation est beaucoup plus trop élevé par rapport par rapport aux ressources que nous avons. Et si donc on continue à la même vitesse d'ici quelques années, donc on ne laissera plus rien aux générations futures.
Et quand on parle de consommation, on ne parle pas uniquement de consommation d'énergie ou c'est la consommation en général, c'est vraiment notre mode de fonctionnement des gens du Nord, parce que quand on dit qu'on a consommé une planète et demie, c'est pas spécialement dans les pays du Sud qu'ils ont consommé une planète et demie. Quoique, enfin, il y a aussi des problèmes environnementaux là-bas qui sont causés par les gouvernements locaux aussi. Hein. Je pense par exemple au Brésil avec la déforestation. Quoique là, on est peut-être plus dans les pays du Sud, mais plutôt dans les pays émergents. Clairement. Mm-hmm. Mais donc voilà, j'ai perdu le fil du début de ma phrase.
En effet, et pour rebondir en fait sur le Brésil, c'est vrai que il y a plusieurs entreprises du Nord qui vont là-bas pour la déforestation et actuellement on en est à l'équivalent de 1,5 fois la surface de la Belgique, donc ce qui est quand même assez énorme et qui affecte justement les populations locales pour leur alimentation et leur survie.
Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait toutes les thématiques tout se regroupe en fait. Puisqu'il y a quelques... Au niveau de la justice climatique, donc si on déforeste l'Amazonie, c'est pour, par exemple, au Brésil, planter du soja. Le soja qui va être amené en Europe pour nourrir le bétail. Et c'était...
La souveraineté alimentaire.
C'était un débat sur la souveraineté alimentaire. Donc finalement, tout se recoupe également.
Mais ça, on voit souvent passer des pétitions qui accusent le Brésil de la déforestation. Ils doivent arrêter, mais... Pourquoi est-ce que localement, on n'interdit pas à nos éleveurs de ne plus utiliser du soja qui vient du Brésil, tout simplement? Pourquoi est-ce qu'on a des terrasses en teak, des bancs en banquirail et des châssis de fenêtres en merenti? Enfin, c'est tout des bois exotiques, on a du bois local, utilisons-le.
Déforestons la Belgique plutôt que l'Amazonie.
Oui, ou assumer quelque part, c'est peut-être le premier pas, non, assumer notre propre consommation locale et se rendre compte peut-être de l'effet néfaste que ça a chez nous et prendre ses responsabilités finalement, tout simplement.
Alors justement, est-ce qu'on peut se dire qu'on pourrait revenir à un mode de consommation locale réellement, puisque depuis les années 50-60, on est justement dans une optique de monde ouvert, on peut aller partout, vite, on peut amener des choses de partout. Enfin, la banane a quand même, je crois que les bananes, ils ont commencé à en manger en Europe. Une fois que les transports sont devenus plus faciles aussi, est-ce qu'on pourrait imaginer revenir vraiment à une consommation locale?
Mais pour moi, il ne faut pas passer non plus à un extrême et se priver de bananes ou de cacao ou des choses ainsi. Ça ne pousse pas chez nous, donc ce ne sera jamais possible. Mais des marchés plus fermés, comme on arrive très bien à le faire au niveau des personnes, ça c'est faisable, mais c'est pas faisable avec l'OMC, c'est pas faisable avec le FMI et c'est pas faisable avec les gouvernements comme ils négocient maintenant. Ça peut être des grands marchés, hein. L'Afrique, ils ont essayé, il y a plusieurs leaders africains qui ont essayé, ils ont vite disparu dans des accidents ou assassinés. En Europe, on se dit y a moyen de faire pas mal de pognon en fabriquant en Chine, donc on va continuer comme ça. Les États-Unis encore plus.
Les Chinois qui sont pas en reste non plus.
Voilà, mais nos pays, allez, en Belgique, on a les instances à l'exportation, comment ça s'appelle? Enfin bref, on a des instances politiques qui invitent nos sociétés à s'exporter. Donc elles sont payées, on leur paye un site internet, on leur paye des voyages, des salons, des bazars, on leur paye le transport de leurs marchandises. C'est financé pour exporter. Pourquoi ? Enfin, produisons ici et empêchons plutôt les pays lointains de vendre des denrées, des biens et des services chez nous. Et je crois que ça réglera déjà pas mal de choses.
Oui, mais le problème, c'est qu'eux-mêmes ont du mal aussi à vendre leurs propres produits chez eux, parce que voilà, l'Union européenne a passé des accords avec leurs propres pays pour qu'on puisse apporter.
Oui. Mais c'est ce que je dis, oui.
C'est... Donc c'est bien là le problème, c'est que je pense que c'est vraiment au niveau européen qu'on doit. On doit stopper les choses, mais le problème, c'est qu'eux ont besoin d'exporter leurs produits pour pouvoir survivre, parce que c'est vrai que les agriculteurs, on en revient à l'injustice climatique, c'est les premiers face justement à tous ces aléas climatiques, que ce soit la sécheresse, les inondations, et donc voilà, ils ont des récoltes qui sont malheureusement très 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 faibles, et il faut pouvoir également vendre le peu qu'ils produisent, et malheureusement c'est même eux qui ont du mal, qui ont du mal les premiers à se nourrir, quoi. Donc c'est
un cercle vicieux finalement, non?
Oui.
Un cercle vicieux peut-être dans l'aide à l'importation, l'exportation, etc. Et puis finalement se retrouver embrigadé dans un engrenage duquel tu peux plus sortir parce que c'est pas possible nécessairement d'être complètement autonome dans ton propre marché, parce que l'idée de marché fermé dont on parlait, je crois qu'on parlait de ça hors antenne en fait.
On l'a
mis sur la table aussi, oui. C'est vrai que c'est pas toujours possible.
Voilà, possible or not possible. Élise, tu notes. Hein.
Mais clairement, c'est pas possible dans l'état actuel des choses, avec des instances internationales qui veulent le libre-échange dans le but d'enrichir quelques-uns. Non, ça c'est clairement pas possible. C'est pour ça que... Personnellement, en tout cas, au niveau politique, moi, je n'attends absolument rien de ce genre de débat, de convention, de conférence, appelons-les comme on veut. Mais par contre, localement, on peut décider, OK, je vais plutôt acheter ce pull qui est fabriqué en Belgique ou même en France, ne soyons pas extrêmes, ou en Espagne, à côté de chez nous en tout cas, plutôt qu'un qui coûte 4 fois moins cher et qui vient de Chine ou du Bangladesh, j'en sais rien.
Alors là, moi, je rejoins tout à fait ton propos, tout en se disant néanmoins, mais alors quoi ? Donc, on agit au niveau local. Moi, j'agis, mais finalement, quel va être l'impact de ce que moi je fais sur réellement le climat ? En se disant que de toute façon, les choses ne vont pas changer plus haut. C'est se donner bonne conscience.
Non, enfin, si tout le monde fait comme toi.
Ah là, d'accord.
Pas, voilà.
Et je pense que là intervient le rôle du CNCD, justement, qui est ici pour conscientiser, non ? Pour travailler là-dessus et pour un peu élargir l'audience, finalement.
Voilà, on va, je pense que c'est beau de penser à d'autres alternatives, mais je ne pense pas que l'idée de marché fermé soit la solution et ni la bonne solution. Enfin, vraiment, on est rentré dans une dynamique de libre-échange. Je pense qu'il faut vraiment poser des garde-fous. Et de plus en plus, parce que c'est vrai qu'on arrive à...
Donc on continue à produire les mêmes produits en Belgique et en Chine, et on les laisse aller l'un chez l'autre.
Oui, moi je pense que c'est... Voilà, il faut donner du travail à tout le monde. En Chine, il faut qu'ils continuent de produire, de produire, mais dans des conditions également décentes, avec un salaire décent. Il faut faire attention, bien sûr, à...
Oui, mais c'est... Enfin, je veux bien, mais c'est pas vraiment possible. Mettons, toi, tu fabriques un pull en laine. Les mêmes matériaux, tu le fabriques à 5 euros. Moi, je choisis de le fabriquer à 50 euros. Les gens vont aller chez qui ?
Oui, c'est certain, oui.
Voilà, et on est l'un à côté de l'autre. Et c'est pas logique. Et là, on a beau être d'un côté et de l'autre de la planète. Il y a moyen de réguler ça. Enfin, on a tout dérégulé, il a fallu des années pour le faire. Ben, ouais. C'était régulé avant, il y a toujours moyen de le faire. Il y a juste des intérêts économiques derrière. de quelques-uns, c'est tout.
Mais en tout cas, donc,
si on arrête d'inonder des marchés avec des produits qui viennent de l'extérieur, ces gens vont pouvoir produire chez eux. Enfin, il ne faut pas prendre les...
Mais est-ce qu'on est capable de produire enfin, tout ce qu'on souhaite en Belgique? Enfin, c'est ça.
C'est là que je dis, il ne faut pas être extrême. Je parle de deux produits identiques. Les bananes, on ne va pas en produire en Belgique, on est bien d'accord. Mais est-ce que ça a du sens d'acheter des tomates chaque année, enfin toute l'année, qui viennent d'Espagne, par exemple? Il y a un grand potager en Espagne, dans le sud, Almeria.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui.
Un potager.
Un très, très grand potager.
Le potager de l'Europe. Mais ça n'a aucun sens de faire voyager les mêmes produits d'un côté à l'autre de la planète.
C'est clair qu'il y a une régulation là-dedans. Et c'est même, on revient au niveau local et on revient à chacun, à la sensibilisation du citoyen, d'acheter du local et de faire attention à ce qu'il consomme. Et en expliquant, mais voilà, éduquer, dans un premier temps, éduquer le citoyen à ne pas acheter ce qui vient.
Mais ça ira sûrement dans les deux sens, enfin, j'espère. Je dis que je n'attends rien des politiques, mais j'espère qu'on ira vers une re-régulation des marchés. Je disais marché fermé, mais. Pour moi, un marché fermé, c'est un marché régulé, quoi. Laissons entrer les biens qui ne sont improduisibles chez nous et dont nous avons besoin. Mais enfin, je sais pas, si vous voulez absolument acheter un pull qui vient de Chine, on met 100% de taxes d'importation. Enfin, on l'a fait avant, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait plus le faire?
Tu vas être traité de...
communiste, c'est ça.
Et voilà, donc on voit la thématique justice climatique, enfin la justice climatique qui soulève énormément de débats, de solutions. Est-ce qu'il y en a? Il y en a, oui, il y en a peut-être pas. Enfin, il en faut en tout cas en trouver avant qu'on ne pourrisse encore plus cette planète. Enfin, en même temps, on disparaîtra et puis on recommencera, mais bon, soyons optimistes quand même.
on recommencera.
Les solutions, elles se trouvent au niveau des citoyens et des politiques. Des politiques pour vraiment arriver à un cadre contraignant et ambitieux pour lutter contre les changements climatiques. Et au niveau du citoyen, les consommateurs, une autre façon de consommer et de prendre conscience un petit peu de ce qu'ils mangent et de comment est-ce qu'ils s'habillent.
Et donc chantons tous pour cela.
C'est une idée.
Mettons un peu de bonne humeur là-dedans.
Voilà. Oui, chantons tous. C'est vrai qu'une des actions phares de notre campagne aux 11-11, c'est l'action Sing for the Climate, qui en fait prend l'allure d'une grande pétition vivante, puisque nous invitons tous les festivaliers cet été à chanter pour le climat. Et l'idée est donc de faire un clip vidéo qui sera remis à nos décideurs politiques à la veille du sommet de Doha. Donc ont déjà participé plusieurs personnalités, que ce soit Bully Lanners, Marlène Dorsena, on a même fait chanter Elodie Rupo. Vont venir les vainqueurs de The Voice et plein d'autres. Donc voilà, et un grand rendez-vous aura lieu dans toute la Belgique les 22 et 23 septembre. Donc c'est plusieurs rassemblements dans chaque province, donc ne manquez pas l'appel. Et vous aurez également l'occasion de chauffer vos vocalises ici à Esperanza, puisque nous avons la scène Sing for the Climate au village de la justice climatique. On t'y attend.
Joli, joli.
On ira tous chanter, tiens. C'est une bonne idée. Pas amplifié alors, hein. Parce que là, ça consomme de l'électricité, c'est pas bien.
C'est le bon vieux acoustique.
Voilà. Eh bien voilà, c'était le premier débat de Radio Esperanza aujourd'hui dans les studios de Radio Esperanza. Bien entendu, à Esperanza, évidemment. C'était donc la campagne Justice climatique et ses enjeux de Rio à Doha en passant par Esperanza. Et donc on vous y attend nombreux, réfléchissez bien à tout ça. Et
le dimanche, surtout ce dimanche, ne manquez surtout pas le lancement de la deuxième année de campagne qui aura lieu à 19h15 à la Seine côté Jardin.
Et bien voilà, la clôture est clôturée et on vous le rappellera d'ici là, puisqu'on a tous les jours en fait un débat à la même heure, donc à 16h sur la justice climatique. Pour suivre, je ne sais pas si elles sont déjà là. Elles sont déjà là, je vais courir. Et donc on a une interview de
Coco Rosy. Ici dans les studios, donc dans quelques instants on accueillera notre belle Violaine et Élise qui vont
donc interviewer le duo qui se produira ce soir à 19h sur la scène côté cour.